Vous écoutez France Musique.
Ne transpire pas en dirigeant, seul le public a le droit de s'échauffer. Souviens-toi que tu ne fais pas de la musique pour ton plaisir, mais pour celui de tes auditeurs. Ne quitte pas des yeux les corps et les bois. Si tu les perçois, c'est qu'ils sont déjà trop forts. Voilà, selon Richard Strauss, quelques-uns des 10 commandements que tout jeune chef d'orchestre devrait inscrire dans un livre d'or. Mais avant de pouvoir suivre ces conseils, comment devient-on chef d'orchestre ? En France, les cursus officiels sont assez limités. Lorsque l'étudiant possède un bagage musical et instrumental suffisant, il pourra débuter son apprentissage dans l'un des 30 conservatoires dispensant des cours de direction. Passé ce stade, la formation supérieure se poursuivra soit dans l'un des 2 pôles supérieurs à Strasbourg ou à Boulogne, soit au CNSM de Paris. Mais attention, les places sont chères. Environ un étudiant sur 30 est accepté au CNSM. Ce parcours achevé, remporter un prix dans un concours international aidera probablement à se faire un nom. On dénombre une 15aine de concours de direction à travers le monde, dont celui fameux de Besançon. Preuve que le métier de chef fascine et attire de plus en plus, ce concours international de Besançon bat tous les records d'inscription cette année avec 296 candidats, dont 46 femmes, de 46 nationalités différentes. Comment devient-on chef d'orchestre ? C'est le sujet du jour aujourd'hui dans 30 minutes d'entracte en compagnie de Marie-Hélène Duvigneau avec 3 invités, Zaya Ziwani, Alain Paris et plus tard au téléphone Jean-Claude Casadesus.
Thank you.
Un extrait de la danse des éclairs de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt par la Philharmonie slovène dirigée par Alain Paris, bonjour, qui est bonjour, avec nous aujourd'hui pour parler du métier de chef d'orchestre en compagnie de Zaya Ziwani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'orchestre également. Oui. Alors Alain Paris, on vous connaît bien sur France Musique puisque en nombreuses années vous avez été producteur sur cette antenne. Vous êtes chef d'orchestre, je mentionnais tout à l'heure en introduction le festival de Besançon, vous êtes premier prix du concours international de Besançon en 1968, si je ne m'abuse, oui. Et vous avez également enseigner la direction d'orchestre, je crois, au Conservatoire de Strasbourg. Donc,
absolument,
vous
oui.
pourrez nous dire comment on enseigne la direction d'orchestre. Zaya Ziwani, vous êtes directrice musicale de l'orchestre Divertimento, qu'on écoutera tout à l'heure. Vous êtes également, depuis 2007, chef d'orchestre principal invité de l'Orchestre National d'Algérie. Et alors, vous êtes venu à la direction d'orchestre après avoir travaillé un certain nombre d'instruments. Vous êtes diplômé, vous avez remporté des prix de conservatoire d'alto, de guitare classique et de musique de chambre.
C'est ça.
Et puis, vous avez franchi le pas, vous avez un cursus à l'Université Paris 4 Sorbonne et vous êtes également chef d'orchestre, un métier d'homme, un métier de femme, de plus en plus, Marie-Hélène Duvigneau.
Ben, écoutez, encore rare les chiffres, il ne fait effectivement pas bon être une femme si on vise une carrière de chef. Sur les quelques 5000 chefs d'orchestre dans le monde, on ne compte qu'environ 70 femmes qui exercent leur métier dans des conditions pas toujours faciles. Dans le livre de souvenirs qu'elle a publié en 2010, Claire Gibault raconte quelques exemples des vexations dont elle a souvent été victime. À l'Opéra de Vienne, à la fin des années 80, alors qu'elle assiste Claudio Abbado dans Péléas et Mélisande de Debussy, elle se voit écartée de la fosse par l'orchestre qui ne veut pas d'une femme à la baguette. Des années plus tard, au Théâtre du Châtelet, c'est au tour de l'Orchestre Philharmonique de Radio France de refuser sa direction. Pour être certaine de diriger un ensemble, une femme n'a d'autre solution que de le créer, estime-t-elle, ce qu'elle a fait en fondant le Paris Mozart Orchestra. Témoignage édifiant également d'Ariane Matiak, lauréate de l'ADAMI en 2008, elle a fait ses classes à Vienne avec Léopold Dagger, qui ne croyait pas aux femmes chefs. Si lors de son premier cours, il l'a félicité, il lui a aussi reproché de draguer les musiciens parce qu'elle leur souriait. Un état d'esprit qui oblige d'ailleurs les femmes chefs à étudier avec soin leur tenue de travail, entre guillemets, féminine, certes, mais pas question de la moindre ostentation. On ne dirige pas déguisé en Betty Boop, dixit Nathalie Stutzmann. Un machisme musical qu'il faut tout de même relativiser. Les choses changent avec les nouvelles générations. On a du mal à imaginer aujourd'hui un Karajan proclamant que la place des femmes est dans une cuisine, pas dans un orchestre symphonique. Et puis, comme le souligne la Finlandaise Susanna Maiki, qui préside aux destinées de l'ensemble intercontemporain de Paris, poser la question de la ségrégation anti-femme sans examiner aussi le sort réservé aux artistes issus des minorités culturelles, ethniques ou sociales semble insuffisant et réducteur.
Merci Marie-Hélène Divigneau. Alors, il ne s'agit pas de consacrer une émission sur les femmes à la direction d'orchestre. Zaya Ziwani, vous avez 35 ans. Lorsque vous avez décidé de vous consacrer à la direction d'orchestre, quelles ont été les réactions autour de vous ?
Au départ, j'étais assez jeune. C'est vrai que souvent, ce métier, on l'aborde plutôt en deuxième partie de carrière, même si maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent aussi. Et c'est vrai que bon, moi, dans mon entourage, mes professeurs, c'était quelque chose d'assez inattendu et un peu surréaliste. Donc, ils me disaient, écoute, Zaya, peut-être le mieux, c'est que tu te concentres sur tes études d'instruments. Et au départ, ils ont essayé de m'en dissuader. Alors, c'est vrai que même si ça m'avait un petit peu attristée, je pense que c'était aussi surtout pour m'alerter un peu de la difficulté du chemin qui m'attendait. Et puis, j'ai continué peut-être un peu avec l'insouciance de mon jeune âge aussi à y croire, également encouragé par mes parents qui n'étaient pas du tout en fait dans le milieu musicien, donc aussi un petit peu sans idée reçue par rapport à ça. Et puis j'ai eu la chance de faire une belle rencontre aussi avec le maestro Sergio Chilibidac. Et donc C'est vrai que c'était pas du tout attendu. Et c'est vrai que cette rencontre-là m'a complètement désinhibée, puisque lui m'a au contraire encouragé à intégrer sa classe. Et puis après, forte de cet enrichissement personnel et artistique, je me suis lancée dans cette voie-là.
C'était en 96-97 que vous avez suivi les cours de direction d'orchestre de Chilibidac
à Munich.
Qu'est-ce qui, avant, vous avait donné envie de devenir chef d'orchestre ?
Tout simplement parce qu'en fait, déjà dans mon parcours personnel, c'est tout le répertoire symphonique qu'on écoutait beaucoup à la maison, qui était pour lequel mon père se passionnait beaucoup. Donc c'est aussi une passion qui m'a transmise à la maison. Et puis c'est vrai que j'ai commencé d'abord par la guitare classique et un peu frustrée de ne pas pouvoir jouer ce répertoire justement. Et quand j'ai fait de l'alto, ça m'a permis d'entrer dans l'orchestre. Et Et la place de l'alto dans l'orchestre, c'est vrai qu'on est au milieu, on est devant le chef d'orchestre, et donc c'est quelque chose qui moi, m'a beaucoup en fait fascinée, de pouvoir entendre tous les instruments, de me retrouver devant le chef d'orchestre, d'écouter ses recommandations, et de me dire, ah bah tiens, cette idée, elle est intéressante, ou au contraire, j'aurais fait autrement. Et c'est un peu la curiosité qui m'a titillée. Donc petit à petit, je me suis intéressée à ce métier de chef d'orchestre, en étudiant les partitions, et puis voilà, j'ai eu envie de m'engager dans cette voie-là.
Ouais. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, d'Hans Richter, Alain Paris, que je vais vous dire ce que vous en pensez. « Comment devient-on chef ? On monte sur l'estrade. Ou bien on sait, ou bien on ne saura jamais. »
Mais c'est ce que disent les instrumentistes, parce que les instrumentistes disent, alors évidemment, un petit peu en boutade, les membres des orchestres, quand on voit arriver un chef qu'on ne connaît pas, on sait entre le moment où il a franchi la porte des coulisses et le moment où il est monté sur l'estrade, on sait à qui on a affaire. Mmh. Alors, je tempère un petit peu, parce qu'il y a toujours de l'excès, mais au bout d'un quart d'heure, ils savent à qui ils ont affaire. Tandis que nous, au bout d'un quart d'heure, on ne sait pas vraiment, c'est-à-dire qu'on sait à peu près quel est le niveau de l'orchestre, mais on a besoin de beaucoup plus de temps pour savoir où sont les forces, les faiblesses, etc. Tandis qu'eux, ils ont très vite compris qui est à la barre et est-ce que la semaine va être intéressante ou est-ce que pendant une semaine, ils vont s'enquiquiner. Mmh. Et ça, c'est très fort. On est un ou une contre... ou en tout cas face à 100, ils sont en train de nous observer. Donc le rôle du chef va être d'arriver à inverser cet état d'esprit qui est un petit peu un équilibre précaire pour le faire basculer dans le positif et que tous ces instrumentistes qui ont tous quelque chose de formidable à dire, eh bien, on arrive à canaliser tout ça et à le mettre au service de l'interprétation.
Marie-Hélène.
La principale qualité d'un chef d'orchestre, c'est quoi ?
Avoir un bras. Le charisme, être clair, parler peu, savoir où il veut aller.
Ouais.
Moi, je pense aussi que c'est... oui, alors c'est vrai que toutes ces qualités sont nécessaires aussi. Après, c'est d'être un bon musicien aussi. Et puis, je pense aussi que maintenant, les valeurs humaines, d'apporter aussi de la confiance aux musiciens, c'est important, tout en gardant justement ces valeurs de charisme. Parce que, avant tout, les musiciens, ils ont aussi besoin d'être assurés, de savoir qu'ils ont quelqu'un qui les conduit et qui sait ce qu'il veut. Et souvent, on me pose la question, est-ce que d'être une femme, ça change quelque chose ? Après, quand moi, je suis sur l'estrade, je sais que je ne fais pas de différence. Je ne me sens pas homme, je ne me sens pas femme. Je veux juste être un bon chef d'orchestre et c'est ce que les musiciens attendent. Et pour ça, je pense que c'est important justement d'avoir aussi de mettre en place une relation, je trouve, entre les musiciens et le chef d'orchestre, et où l'humain aussi a de l'importance. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois.
C'est amusant, cette histoire du sourire, pardon, oui, cette histoire du sourire évoquée par Léopold Laguerre, qui reprochait à l'une de ses élèves d'avoir...
De draguer les musiciens.
De draguer, bon, c'est complètement... Bon. Caricatural, parce que le sourire, moi j'en use et j'en abuse, parce que ce que disait Zaya à l'instant, mettre les musiciens en confiance, c'est quelque chose de formidable et d'absolument indispensable. Je prends un exemple. Les musiciens allemands passent pour être les plus solides, les plus professionnels du monde, les plus costauds, les orchestres allemands. Quand vous levez le bras devant un orchestre allemand, vous avez l'impression d'avoir un siècle de musique et de tradition qui vous tombe sur les épaules. Néanmoins, plus vous avancez dans le travail, plus vous vous rendez compte que les instrumentistes allemands, bien souvent, n'ont pas confiance en eux. Et ils ont besoin de nous.
Pour revenir un petit peu aux bases, devenir chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il faut, on est d'accord là-dessus, avoir un prix d'instrument, ou en tout cas exceller dans son instrument pour pouvoir imaginer déjà se mettre à la direction d'orchestre. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer ?
Je pense pas. Mon expérience personnelle, j'ai commencé très tôt, puisque j'ai été le plus jeune lauréat du concours de Besançon pendant, je sais pas, 30 et quelques années. Mais c'était peut-être trop tôt à cette époque-là, être chef d'orchestre à 20 ans, être catapulté dans le milieu professionnel, alors qu'il n'y avait pas ces passerelles, ces possibilités de continuer à apprendre son métier qui existe aujourd'hui.
Oui.
Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc ça, à ce moment-là, c'était trop tôt. Aujourd'hui, pourquoi pas regarder Lionel Berenguier, regarder bien d'autres qui démarrent à 20 ans. Le tout, c'est de ne pas non plus leur donner des responsabilités. C'est comme les chanteurs. Vous ne chantez pas Tosca à 25 ans. Mmh. Ben, je pense qu'un chef d'orchestre, il y a des marches.
Après, souvent, c'est vrai qu'on attendait, enfin avant, les attentes pour un chef d'orchestre, c'est aussi d'avoir une grande maturité musicale et une maturité humaine. C'est sûr que c'est très important, mais aussi en tant que jeune, on peut aussi apporter d'autres qualités, une certaine vitalité, un investissement qui permettront aussi de pouvoir aussi apporter une autre force, en fait. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu l'occasion de commencer très tôt et que maintenant, ça se fait de plus en plus.
Mais alors, ces chefs-là, ces chefs un peu, ces phénomènes presque, ceux qui ont commencé à débuter à l'âge de 11 ans, Mazel, Lombard, Roberto Benzi, Ça veut dire quoi? Ils ont vraiment le charisme, l'autorité pour devenir chef d'orchestre si jeune ou sont un peu des exceptions?
Ce sont des exceptions. Et puis, il faudrait regarder les vidéos et écouter les prestations de ces gens-là à cet âge-là. Ouais. Vous savez, il y a eu sur Internet, il y a quelque temps, une ouverture de la chauve-souris dirigée par un jeune chef. Je crois que c'était en Ouzbékistan, sauf erreur. Un gamin absolument craquant, avec des yeux à vous faire fondre. Bon, mais il est évident que ce n'est pas lui qui dirige l'orchestre. Mmh. Et puis que ça a été...
L'orchestre joue tout seul dans ce cas-là.
L'orchestre joue tout seul, ça a été répété. C'est dans une classe du conservatoire. Ce sont les professeurs qui ont préparé l'orchestre et puis on met la caméra au moment où il faut.
En un mot, qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans un cours de direction d'orchestre?
J'en sais rien.
Quoi, la gestique, la lecture de la partition, j'imagine que c'est quelque chose qui doit être acquis déjà lorsqu'on arrive en cours
ça,
de direction.
C'est sûr, dans ce métier, de toute façon, nous les chefs d'orchestre, quand on arrive pour la première répétition, c'est le moment où notre travail est le plus abouti parce que le rôle du chef d'orchestre, c'est avant tout pendant les répétitions. Mmh. C'est comme ça qu'on évalue justement un bon chef d'orchestre, sa façon à pouvoir fédérer, à créer cette unité-là, à donner justement ses indications musicales. Donc c'est vrai qu'il faut arriver, comprendre bien la partition, la maîtriser pleinement. Et donc pour pouvoir entrer en études de direction d'orchestre, il faut en effet avoir des notions quand même d'histoire de la musique, d'analyse, d'harmonie, d'orchestration, de comprendre, à défaut de savoir jouer tous les instruments, en tout cas comprendre leur fonctionnement, leur histoire aussi, parce que à l'époque de Schubert, un forte pour le trombone, c'est pas la même chose que maintenant, puisque la facture instrumentale a évolué, et donc le rôle du chef d'orchestre, c'est de pouvoir aussi maintenant prendre des décisions pour pouvoir restituer au mieux la pensée du compositeur.
On va faire une petite pause musicale, on va demander dans quelques instants ce qu'en pense Jean-Claude Casadesus, on va vous écouter, à la tête de l'orchestre Divertimento, c'est un extrait de... On reste dans la musique française. C'est avec la chanson de Dalila, c'est la Bacchanale, c'est Saint-Saëns. La Bacchanale de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns par l'orchestre Divertimento dirigé par Zaya Ziwani qu'on pourra entendre ce soir, je crois, aux Flâneries de Reims.
Tout à fait.
Ainsi que le 13 juillet au festival, non c'est pas au festival, c'est à Tremblay en France, c'est en Seine-Saint-Denis.
C'est ça exactement.
Voilà. Alain Paris, l'école de direction française, ce qu'on apprend aux jeunes chefs d'orchestre en France aujourd'hui, c'est la même chose que ce que les jeunes chefs en Allemagne, en Italie, en Royaume-Uni apprennent. Est-ce qu'il y a une espèce d'homogénéité ou...
n'y a pas de code, vous savez. Ouais. C'est le problème, c'est que l'enseignement de la direction d'orchestre se situe en termes de compétences et de connaissances et d'appréhension de son métier au moins 3 marches en dessous de l'enseignement instrumental. Mmh. Quand vous sortez d'un conservatoire avec ce qui était autrefois un prix, mais appelons ça une maîtrise aujourd'hui, si vous voulez, vous êtes apte à jouer dans un orchestre d'un certain niveau déjà, en tout cas à postuler à des concours de recrutement. Quand vous sortez avec le même diplôme de direction d'orchestre, pratiquement vous ne savez rien faire. Vous connaissez les codes, vous êtes capable de conduire un orchestre, mais conduire un orchestre, c'est une chose, le faire répéter et obtenir ce que je disais tout à l'heure, que tous mettent au service de cette interprétation, de ce travail d'une semaine que vous allez faire ensemble, le meilleur d'eux-mêmes, il y a un autre chemin à faire. Zaya insistait sur le côté psychologique, sur le côté contact. Je parlais du charisme, le sourire, un certain nombre de trucs qui s'apprennent avec le métier, avec l'expérience. Je me souviens de Gary Bertini qui me disait, quand j'ai eu la chance de réaliser certains entretiens pour cette chaîne, me disait, il avait 77 ans, et je lui disais, ah, vous allez cesser d'avoir le droit de lire Tintin. Il me disait, oui, mais j'ai l'impression que je commence à être un bon chef. Vous vous rendez compte, ce monsieur qui avait une expérience absolument colossale. Oui. Et je pense que c'est tout. Chili Bidak disait probablement la même chose. Et c'est des choses qui s'apprennent petit à petit. Donc, patience. Mais vous avez aussi des gens qui ont un enthousiasme extraordinaire et qui, dès 25 ans, sont capables de faire passer. Mais ce qu'ils font passer, ce n'est pas ce que d'autres, plus tard, peuvent apporter. Donc, il y a tout un éventail. C'est ça, la richesse de notre métier. Oui.
Et puis, bien des chefs deviennent chefs, j'ai l'impression, sans nécessairement passer par ces cursus, non ? Deviennent des chefs de chant, par exemple, accompagnent les chanteurs, vont travailler dans des petites troupes. En Allemagne, souvent, on a des exemples de chefs comme ça qui apprennent le métier véritablement sur le tas, sans passer par... par ces
oui,
voies,
ils font les deux. Ils font les ils deux. Font les deux. Temps, oui. Oui. Ça, c'était autrefois. Aujourd'hui, je pense qu'ils font les deux en même temps.
Oui,
puis c'est vrai qu'en fait, notre métier, au même titre qu'un instrumentiste a besoin de passer plusieurs heures par jour sur son instrument, nous, notre instrument, c'est l'orchestre. Donc c'est vrai que même si on sort de nos études, on a besoin aussi de passer du temps face à un orchestre pour pouvoir justement parfaire à la fois sa technique de répétitions, son contact avec les musiciens, sa capacité à être très réactif. Et donc c'est vrai que cette expérience-là, elle s'acquiert sur le terrain. Et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps pour les chefs d'être justement optimum dans leur efficacité.
On est en ligne avec Jean-Claude Cazatsu. Bonjour Jean-Claude Cazatsu.
Bonjour cher Jérémy.
Vous êtes, alors on le rappelle, depuis 1976, je crois que vous détenez un record, directeur musical de l'orchestre de Lille, que vous quitterez en 2015, c'est ça ?
Écoutez, je ferai évoluer la situation parce que je pense que quand on a une entreprise qu'on a créée, il faut penser à son avenir. Et comme hélas, les parcs déroulent leur fil inéluctable, il faut penser à la suite de sa maison. Donc je transmettrai les clés. J'ai une salle merveilleuse, l'orchestre est dans une forme éblouissante. Donc il faut penser à son avenir.
Est-ce que vous pensez, Jean-Claude Cazatsu, qu'il est plus difficile de devenir chef d'orchestre aujourd'hui que lorsque vous avez débuté ?
De toute façon, vous savez, ça reste une très très grande difficulté. Ce qui est plus difficile, c'est que les orchestres sont beaucoup plus entraînés. Les orchestres sont d'une grande virtuosité aujourd'hui, donc il faut avoir une pensée encore plus développée pour pouvoir leur transmettre quelque chose qui soit digne de leur respect.
Mmh. Quel conseil donnez-vous aux jeunes chefs d'orchestre lorsqu'ils viennent vous en demander ?
Écoutez, les conseils, ça n'engage que ceux qui les donnent. Je crois que ce qui est très important, c'est avant tout d'avoir une pensée du son, d'avoir une conception, de faire chanter en soi une partition, de tout chanter d'ailleurs, et puis d'essayer de permettre aux musiciens de faire leur métier le mieux possible, ce qui implique une certaine humilité, et surtout servir le texte quoi qu'il arrive. Se demander si véritablement on fait les choses qui sont dans la pensée du compositeur, plus que parce qu'on les sent, entre guillemets, d'une certaine façon. Le chef d'orchestre, il doit mettre en ordre. Il doit savoir par anticipation tous les passages qui pourront poser des problèmes d'ensemble, de couleurs, de phrasés. Le maître mot, c'est l'anticipation.
Ouais.
Et je dirais, pour paraphraser Boileau, je dirais que ce que l'on conçoit bien doit s'exprimer clairement et que les gestes pour traduire la pensée se doivent d'être évidents. Je crois que tout est là.
Vous enseignez la direction d'orchestre ?
Non, j'enseigne pas, mais quand on vient me demander des avis, j'en donne.
Oui.
Je crois que le mieux, vous savez, c'est un peu comme il faut regarder ce qui se passe, il faut aller aux répétitions, il faut essayer de comprendre. Chacun a un style propre, mais Je veux dire, ce qui est le maître mot avant tout, c'est de servir la pensée des compositeurs. Mmh. Et c'est une galaxie, la musique. On est un peu comme des pilotes d'astronefs qui évoluent dans une galaxie infinie.
Oui. Vous avez abordé, je crois, ce chapitre de la direction d'orchestre, du métier de chef, en tout cas dans l'un des livres que vous avez écrit, Jean-Claude Casadesus, si je ne me trompe, ne m'abuse.
Vous êtes gentil d'en parler. Ça s'appelle La partition d'une vie, oui, il vient de sortir il y a quelques mois. Et c'est vrai que je consacre tout un chapitre à une réflexion qui m'est chère sur ce métier qui n'est pas un métier d'ailleurs, c'est une philosophie, c'est une réflexion permanente, c'est une quête aussi de meilleure connaissance de soi et surtout il faut essayer de transmettre avec modestie et exigence ce que les chefs-d'œuvre nous dictent.
Je sors un tout petit peu du cadre, de quelle façon allez-vous peser sur votre succession à l'Orchestre de Lille ?
Vous savez, on a le temps. Personne, la région ne veut pas que je m'en aille. Donc, je l'aurais annoncé. Les musiciens, apparemment, ne sont pas pressés de me voir disparaître. Donc, je garderai un lien, évidemment, indéfectible avec cette région que j'aime. Je garderai la direction de mon festival de piano que j'ai créé en 2004. Et je dirigerai sans doute quelques concerts par an. Mais pour l'instant, nous parlons à certaines personnes qui pourraient éventuellement présenter les conditions nécessaires de la... je dirais, de la poursuite d'un projet artistique qui a fait ses preuves.
Parmi vous avez des contacts quoi ? Parmi les jeunes chefs français ou d'autres ?
Parmi des chefs d'orchestre, qu'ils soient français ou internationaux, vous savez. Mais il y en a beaucoup, ceux qui ont un grand talent, et tout ça, c'est toujours pareil, ça se compte sur les doigts d'une main par pays, eh bien, ils ont des contrats. Donc, comme on n'est pas dans l'urgence et que j'ai 2 ou 3 ans devant moi, je, tranquillement, avec mon équipe, nous réfléchissons à d'abord inviter des gens qui pourront faire la preuve de leur qualité, parce qu'on parle avec les musiciens, c'est important de recueillir leurs sentiments.
Merci beaucoup, Jean-Claude Casadesus, de votre témoignage.
Écoutez, il est court pour décrire. Vous savez, ça me rappelle un peu, je ne sais plus qui disait. Et il nous reste 3 minutes, et Dieu, qu'est-ce
c'est
que c'est
à peu
pour
près
vous.
Ça.
je pourrais vous en parler plus longtemps, parce que c'est quand même le cheminement de toute une vie, la direction d'orchestre.
Le prochain concert de l'Orchestre National de Lille, c'est
oserais-je vous dire que le dernier, c'était hier soir, avec le Sacre du Printemps et Renaud Capuçon, qui jouait le concerto de Brahms, et que ça a été des grands, mais des moments extraordinaires d'émotion. Vous savez, on a une salle formidable maintenant, et les musiciens sont aux anges, et je crois qu'on ne dira jamais assez que la salle de concert, c'est l'instrument de l'orchestre.
Merci Jean-Claude Casadesus, à bientôt.
Au revoir, merci à vous.
On revient quelques instants, si vous le voulez bien, sur les structures, concrètement, les structures offertes aux musiciens qui veulent devenir chef d'orchestre en France. J'ai parlé du CNSM, de ces 2 pôles de direction d'orchestre à, je crois, à Boulogne
et à Strasbourg.
Et à Strasbourg. Mmh. Il y a l'école normale de musique aussi qui
la
propose...
La Scala Cantorum.
Exactement. Oui. Il y a cette chose, c'est nourri, c'est fourni.
Tout ça, c'est fourni, puis je crois qu'il faut très vite aller voir ailleurs. Il faut très vite aller voir ailleurs, et c'est ce que font les jeunes, ils cherchent. Alors évidemment, le nec plus ultra, c'est d'essayer d'aller travailler avec Jorma Panula en Finlande, si c'est possible. C'est devenu un petit peu le gourou, celui qui forme... il y a qu'à voir déjà tous les chefs finlandais qui sont au top du marché de la direction d'orchestre international aujourd'hui, mais il n'y a pas que loin de là. Ouais. Bon, il y a des gens qui savent faire passer quelque chose. À ma génération, c'était Pierre Dervaux, Zaya a parlé de Sergio Chilibidac, il y a eu un autre moment, Igor Markevitch, tous ces gens-là, avec leur personnalité, qui d'ailleurs se détestaient cordialement les uns les autres, qui faisait que si on avait travaillé avec l'un, on ne pouvait pas aller travailler avec l'autre. Sans ça, on était instantanément envoyé en coulisses. Enfin, mais il y a à apprendre avec tout le monde. Et ce que disait Jean-Claude Casadesus, je crois que c'est très très important, assister aux répétitions. J'ai eu cette chance, moi, de pouvoir assister à toutes les répétitions de l'Orchestre de Paris à l'époque de Scholti. Et j'ai fou ce que... En voyant M. Giulini faire travailler l'Orchestre de Paris, j'ai appris plus qu'en plusieurs années, si vous voulez. Et on n'a même pas envie de copier. On se dit, tiens, il fait comme ça, comment est-ce que je ferais avec mon petit bagage personnel pour arriver à une démarche analogue ?
Oui, en effet, enfin, je rejoins tout à fait ce qu'Alain dit, c'est que bon, il y a à la fois les cours, et puis après, je pense qu'il faut aussi que chacun fasse ses propres aussi expériences sur le terrain, aller assister à des répétitions, c'est aussi très très instructif.
Vous avez eu des mauvaises expériences parfois face aux orchestres ?
Oui, ce serait mentir que dire qu'à chaque fois c'est toujours comme on le souhaite. Après, la plupart du temps, ça se passe bien parce que moi, je me prépare bien. Je suis aussi très très exigeante avec moi-même parce que j'estime qu'il faut l'être avec soi-même avant de l'être avec les autres. Ça, c'est important. et puis que les musiciens, ils ont besoin de voir quelqu'un en face d'eux qui sache ce qu'il veut.
Mais vous êtes passé par, en allant, vous êtes allé suivre les cours de Céline Bidache,
oui,
mais en France, vous avez fait quel cursus pour apprendre la direction d'orchestre précisément?
Moi, j'ai appris avec lui dans le cadre justement de la Scola Cantorum, et puis après, j'ai créé mon propre orchestre parce que j'avais envie de pouvoir diriger, j'avais envie aussi de pouvoir aborder le répertoire que je souhaitais. C'est vrai que quand on est jeune et aussi quand on est une femme, c'est pas toujours évident de se retrouver devant des grandes formations symphoniques, et moi, c'était vraiment le répertoire que je voulais justement diriger, donc c'est pour ça que j'ai créé mon propre ensemble qui me permet maintenant de développer mes orientations musicales et d'inviter les musiciens avec lesquels je souhaite travailler.
Et puis, il faut préciser une chose aussi, on ne sait pas toujours, mais lorsque des musiciens, par exemple au concours de Besançon, il y a beaucoup d'éliminatoires qui se font, le chef dirige un pianiste, tout simplement, donc l'orchestre lui-même est un outil de luxe, en quelque sorte, pour l'apprenti-chef.
Alors ça,
c'est un vrai problème, non ?
Moi, souvent, on me demande de faire des masterclass, et la première question que je pose, est-ce que il y a un orchestre pour faire travailler les chefs. S'il n'y a pas d'orchestre, ça ne sert à rien. Oui. Alors, les éliminatoires de Besançon devant deux pianistes, oui, pas un seul, deux. Il y a déjà une très grosse différence parce qu'il faut les mettre ensemble. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne peut pas, étant donné qu'il y a 200, presque 300 candidats, oui, vous ne pouvez pas offrir un orchestre. Mmh. Économiquement parlant, un concours de direction d'orchestre, c'est la ruine. Mmh. Hein. Donc, il faut faire des choix. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'on se trompe tellement parce qu'il y a des sélections sur vidéo aussi.
Oui, absolument. Ce sera le mot de la fin, en tout cas. Votre prochain concert, Alain Paris ?
Mon prochain concert, c'est un enregistrement à Budapest la semaine prochaine.
D'accord, très bien. Merci à vous deux. Merci Marie-Hélène.
Merci.
Et à toute l'équipe technique, Cédric Châtelus, Nelly Portal pour la préparation de l'émission, Éric Lancien à la réalisation. Bonne soirée, bon week-end et à samedi prochain.